Alors j'en profite pour faire bénéficier les auditeurs de France Bleu
voilà,
du conseil de base que je donne systématiquement à chaque formation que je dispense. En termes juridiques, dans le domaine juridique, il n'y a que deux lettres possibles, la lettre recommandée et la lettre commandée. Voilà, j'adore faire cette plaisanterie, c'est effectivement très clair, il n'y a que la lettre recommandée qui vaille, ou d'autres moyens d'ailleurs de paiement qui en eux-mêmes portent la preuve de leur existence. Par exemple, si vous réglez par Internet, si vous avez effectivement une trace tangible du règlement. Mais sinon, vous n'envoyez jamais de courrier simple,
donc,
jamais.
Donc finalement, quelle solution a Cédrine pour s'en sortir, mis à part repayer ?
Ben Cédrine, je ne lui vois aucune solution, sauf à essayer de plaider sa cause en disant « Regardez, j'ai payé le timbre fiscal ». Vous l'avez acheté par chèque, le timbre fiscal, Cédrine ?
C'est 11 euros, je crois.
Et donc c'était en espèces.
Ouais.
Et ben voilà, donc vous êtes totalement échec et mat. C'est triste à dire, Cédrine, mais vous n'avez pas de preuve d'achat, vous n'avez pas de preuve d'envoi, vous n'avez pas de preuve de réception. Donc vous avez que votre bonne foi.
Et qui ne suffira pas.
En matière juridique, vous avez parfaitement raison. La bonne foi, ça ne suffit pas. Bien entendu, vous ne pouvez rien prouver. Alors hélas, vous serez amené à repayer. Je suis désolé de vous le dire, mais qu'au moins cette mauvaise expérience vous serve de leçon aux auditeurs. Ne payez jamais que par un moyen qui laisse des traces. Sinon, vous êtes exposé à ce genre de situation totalement injuste.
Merci Cédrine, en tous les cas, pour votre question. Encore désolé, hein, mais que ça nous serve encore une fois de leçon. Vous pensez, comme Cédrine, avoir peut-être été injustement sanctionné? Bah, profitez ce matin pour poser vos questions à Éric de Caumont. Lui, une idée bien précise de comment faire, de comment être défendu quand il est question de défense des automobilistes. Il est spécialisé en la matière, il est notre expert. 01 45 27 107 ans, on abordera entre autres la question des amendes non payé, contesté, où le tribunal doit rentrer dans la partie, ou encore les assurances, qui doit prouver une infraction à un conflit avec sa société. Est-ce légable d'être verbalisé par un agent qui n'a pas constaté l'infraction? Des questions de Joël, d'Anne-Marie ou encore de Zach, tout ça d'ici 11h et dans un instant, votre flash infotrafic avec Amélie Perrier. Stationnement gênant et les couloirs de bus, etc., etc. J'ai bien peur qu'on soit nombreux à y passer à un moment ou à un autre. On a abordé le sujet et vous êtes nombreux à nous appeler pour poser vos questions ce matin à Éric de Caumont, 01 45 27 107 1. Maître, une question de Zach. Bonjour Zach.
Alors bonjour monsieur, dame, bonjour.
Dites-nous tout.
En fait, moi, j'ai appelé, ça fait 3 mois, j'ai appelé pour un problème d'une voiture qui était bien garée. Et je suis parti en vacances. Et là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que la voiture avait été amenée à la fourrière pour une reconstitution criminelle. En fait, j'ai appelé le Bureau de France et ils m'ont conseillé de ne pas payer la
voiture
et de contester. Mmh. Voilà. Et c'est grâce à vous, je remercie. En fait, j'ai pas payé, je suis passé par le tribunal et j'ai gagné. En fait, j'étais gracié par l'amende.
Mmh. Ouais.
Mais le problème maintenant, maître, c'est parce que moi, elle m'a coûté au moins 300 euros la fourrière et les jours qu'elle est passée là-bas. Mmh. J'ai envoyé une lettre pour ça. Ils m'ont dit que vous êtes gracié en fait de l'amende.
Mais que vous avez quand même les frais à payer.
Voilà, exactement. Vous êtes gracié de l'amende. Ouais. Mais par contre, le fourrière et le truc ça, voilà.
Maître, c'est vrai ça ?
Maintenant, Zach, il n'est pas question d'accepter ça parce que la fourrière n'est légitime, elle n'est légale que si l'infraction préalable est constituée. C'est le fondement de la mise en fourrière. Donc il est évident que si un tribunal vous a déclaré non coupable, si vous avez eu, apparemment sur nos conseils, on est très heureux pour vous, le courage de contester et que vous avez obtenu gain de cause devant le tribunal et que donc vous n'êtes pas coupable et que vous n'êtes pas condamné pour cette infraction de stationnement, ça en découle automatiquement. Bien entendu que la fourrière n'a plus aucun fondement, que vous avez le droit d'en demander le remboursement et que si ça vous est refusé, et bien de la même façon que vous vous êtes très bien battu, Zach, pour l'amende, enfin pour la contravention elle-même, vous allez vous battre pour récupérer le montant de la fourrière et ils vont être obligés de vous le rendre et peut-être éventuellement même avec des dommages d'intérêt.
Des indemnisations, puisque j'imagine que d'entreprendre un appel en justice, ça fait des frais aussi.
Ça fait des frais aussi. Alors je vais vous dire très honnêtement, obtenir que l'État soit condamné à vous payer vos frais lorsque vous vous êtes battu, vous êtes défendu pour faire valoir vos droits,
ça devient compliqué.
C'est exceptionnel. J'ai dû voir ça peut-être une dizaine de fois dans ma longue carrière. Mais par contre, si là on refuse l'évidence de vous rembourser des sommes qui vous sont objectivement dues puisqu'il n'y a plus d'infraction, là je pense qu'il n'est pas exclu qu'un tribunal tribunal vous accorde quelque indemnité s'il continue à persévérer dans leur
erreur. Donc, Zach, même principe, courrier recommandé, toujours pour en garder des traces et des preuves. Ouais. Et vous nous rappelez, on suit le dossier.
Absolument.
On était là au début, on sera à la fin. Merci beaucoup, Zach, et bon courage.
Bonne journée à vous, merci, bonne journée à vous.
Autre question, celle d'Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, question au sujet de l'assurance, il va falloir nous expliquer un petit peu plus votre cas, Anne-Marie. Si j'ai bien compris, vous avez été prise pour une infraction ?
Non, en fin de compte, c'est quand dans le cadre de ma société, avec mon véhicule personnel en allant au travail, la porte de garage s'est rabattue sur la voiture. Donc, je ne sais pas si c'est un 4x4. Et lorsque les experts sont passés, l'expert donc, de l'assurance de ma société me dit que c'est à moi d'amener la preuve qu'il y a un dysfonctionnement, parce que pour eux, il n'y a pas de dysfonctionnement. Alors qu'en fait, la voiture est avancée de plus de 20 mètres avant que le... de mettre 20 avant que la porte de garage ne touche le pare-brise, parce que c'est un gros 4x4. Hein. Et donc
là, finalement, la difficulté, c'est d'apporter une preuve.
Oui, enfin, la difficulté d'apporter une preuve. Bonjour Anne-Marie. Le principe de base, si vous voulez, c'est qu'une porte automatique de parking n'est pas censée se rabattre sur les voitures. C'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de les laisser passer, justement. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'expert de la société qui vous emploie ou de l'assurance de la société qui vous emploie, qui a donné son opinion.
Oui.
Bon, il est très gentil, cet homme-là, mais il est quand même l'expert du responsable. Donc, ça ne veut pas du tout dire que c'est parole d'évangile ou que c'est un jugement. Hein, c'est son point de vue. Vous avez le droit d'avoir un point de vue différent. Donc, si les points de vue ne sont pas convergents, bah, ce n'est pas compliqué. Dans ce cas-là, il va falloir effectivement engager un contentieux, demander à votre compagnie d'assurance de vous épauler dans ce contentieux. Ça fait partie des primes pour la protection juridique, la défense recours que vous payez en général avec les contrats d'assurance automobile. Et si il n'y a pas d'arrangement possible à l'amiable, parce que dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait votre expert aussi qui s'intéresse à la question, et puis il y aura peut-être un débat entre les experts, voire un tiers expert, comme on dit. Mais si tout ça n'aboutit pas, dites-vous bien que la solution, c'est la procédure judiciaire. Et là, il y aura un expert de nommé, mais un expert indépendant, neutre, judiciaire, un expert auprès des tribunaux, assermenté, et qui va voir quelle est la raison de ce dysfonctionnement de la porte. Et s'il va dans votre sens, bah c'est bien entendu vous qui gagnerez. Les tribunaux vous donneront raison, vous serez indemnisé, et en plus, vous aurez des indemnités pour le préjudice que vous aura causé cette réaction de votre adversaire.
Encore une fois, la procédure judiciaire est indispensable, Anne-Marie.
Elle est probable, si ça ne s'arrange pas à la mienne, mais ce que je veux dire en tout état de cause par là, Anne-Marie, c'est qu'il ne faut jamais imaginer que un expert, sous prétexte qu'il porte un nom prestigieux avec un E majuscule, et quelqu'un dont la parole est d'évangile ou fait foi, alors même que c'est l'expert de votre adversaire. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aide votre adversaire, mais c'est absolument pas quelqu'un qui a la vérité révélée, ou dont la décision s'impose à vous. Absolument pas.
Bonjour à toute l'équipe et bonjour à vous, maître.
Bonjour, Joël.
Alors, là, j'ai une question et j'aimerais que vous m'apportiez ensuite une précision sur des propos que vous prononcez régulièrement.
Oui.
Donc, dites-nous tout, Joël. La question d'abord.
Alors, la question, bah, ça vient à la suite de ce que j'ai entendu ce matin chez M. Darniche. Un automobiliste qui déclare avoir été verbalisé à la suite de la constatation d'une infraction par un fonctionnaire à bord d'un hélicoptère.
Jusqu'ici, tout va bien.
Est-ce que l'agent verbalisateur ne doit pas avoir constaté lui-même l'infraction ?
Alors, vous avez parfaitement raison sur le principe, Joël, et vous connaissez très bien donc l'article 429 du Code de procédure pénale qui prévoit que pour qu'un procès verbal de contravention fasse foi, et notamment foi jusqu'à preuve contraire, ce qui est très, très important, très lourd, il faut que les faits, l'infraction, aient été constatés par celui qui va rédiger le procès verbal. Donc en théorie, vous avez parfaitement raison, ce type de verbalisation par hélicoptère interposé, je vous rassure, est beaucoup moins fréquent que les médias ne veulent essayer de nous le faire croire aux journaux télévisés de 13h ou de 20h, les jours de grand départ, histoire de bien créer la psychose chez les automobilistes, ne serait-ce que parce que quand vous connaissez le prix de fonctionnement d'un hélicoptère sur une heure, il faut vraiment faire beaucoup de PV pour que ça soit rentable, et objectivement, quand même, on ne peut pas jouer à ce point-là avec l'argent des contribuables. Moyennant quoi, il peut se passer la chose suivante, que l'on connaît déjà avec les radars au sol, c'est-à-dire que la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis des années, a établi qu'on pouvait voir une espèce d'exception, en tout cas d'aménagement du principe, et que ça pouvait être quelqu'un qui constatait l'infraction, en l'occurrence celui qui est dans l'hélicoptère, et quelqu'un d'autre qui interpellait et verbalisait, sous réserve qu'il y a eu une transmission suffisante des éléments d'identification. Donc ça veut dire en clair que si l'hélicoptère dit il y a une Laguna bleue ou une 307 rouge qui ne respecte pas les distances de sécurité, évidemment que ce n'est pas acceptable. Par contre, si de l'hélicoptère il a réussi à relever l'immatriculation, ce qui m'impressionnerait beaucoup déjà, ou en tout cas il n'a pas perdu de vue le véhicule jusqu'à ce qu'il voit ses collègues au sol l'intercepter sur les éléments qu'il vient de transmettre par radio, à ce moment-là, oui, on peut admettre que le procès-verbal, au regard de la jurisprudence actuelle, soit valablement dressé, nonobstant le fait, et vous avez raison sur le principe, que ça ne soit pas personnellement, évidemment, celui qui dresse le procès-verbal qui a constaté l'infraction.
En même temps, il paraît inimaginable qu'on pose l'hélicoptère pour dresser un procès-verbal.
Ça serait encore plus cher, encore plus dangereux et franchement complètement stupide. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc déjà qu'effectivement on utilise un hélicoptère, bon moi je veux bien, mais d'un point de vue financier c'est aberrant. Mais alors si en plus on doit le faire se poser à chaque infraction, là on marche sur la tête évidemment. Mais le fait que ça soit difficile techniquement à faire ne justifierait pas en soi qu'on viole la loi. La fin ne justifie pas les moyens en droit. Simplement, là, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est, on va dire, extensive et qui autorise qu'on prenne quelques libertés avec le principe de base dès lors qu'on se donne les moyens de ne faire aucune erreur possible. Voilà.
Très rapidement, Joël, la petite précision que vous vouliez avoir.
Je savais qu'il y avait cette petite...
Cette exception.
Voilà, pour les contrôles de vitesse.
Ouais.
Alors, maintenant, la précision... vous dites souvent les policiers sont assermentés.
Oui.
Je crois qu'ils ne le sont plus depuis très longtemps.
Alors, si vous voulez, les policiers, c'est pas une question à proprement parler d'assermentation. Alors, si, bon, il y a des prestations de serment, je peux vous le certifier, mais peu importe, là n'est pas la question. C'est que on sait qu'un policier, en tant que tel, c'est pas sa parole. Vous savez, quand on vous dit la parole d'un policier a plus de valeur que la vôtre, c'est pas ça la question. La question, c'est que quand un procès-verbal est dressé par un policier et qu'il est compétent pour cela, évidemment, si c'est une contractuelle qui vous dresse un procès-verbal pour alcoolémie, il est nul le procès-verbal, elle a pas le droit. Bon, mais si le policier vous dresse un procès-verbal, ce procès-verbal, et c'est le même article 429 qui en parle, fait foi jusqu'à preuve du contraire. C'est ça qui fait que sa parole, entre guillemets, a plus de valeur que la vôtre et que le procès-verbal devra être combattu par vous et vous devrez prouver que vous êtes innocent. C'est bien ça tout le problème et les règles du jeu de base du code de procédure pénale en matière de contravention et donc de contravention au code de la route. Voilà la vraie explication juridique.
Merci Joël et belle journée à vous. Autre question, on enchaîne Yazid. Bonjour Yazid.
Bonjour madame.
Alors là, Yazid, extraordinaire l'histoire. Yazid paye son ticket, il se gare.
Deux histoires, madame.
Voilà. On va commencer par une. On va commencer par une déjà, il paye, il prend son ticket, tout va bien, mais un prospectus mis sur la voiture cache ce ticket et donc
ouais,
il est verbalisé. C'est terrible.
Oui, c'est dur, Yazid, et je comprends très bien votre.
Mais le problème, c'est la deuxième fois.
C'est la deuxième fois que ça arrive.
Oui,
j'ai 203,
j'ai été à la préfecture, j'ai dit voilà, comment que ça se fait, j'ai un PV, et le ticket il est valable toujours.
Et ils veulent rien savoir.
Fois, c'est pareil, j'ai failli faire un scandale là-bas à la préfecture.
Bon.
Ça n'aidera pas les choses, Yazid.
Ouais.
J'aimerais bien voir le flic, le policier qui m'a fait la contravention.
Et est-ce que c'est le même à chaque fois, Yazid?
Est-ce que c'est le même à chaque fois?
J'ai pas compris.
Est-ce que c'est le même policier qui a deux fois de suite pas vu votre ticket?
Je demande à la préfecture, je vous dis, est-ce que je peux voir le policier vraiment
non mais,
qui m'a fait la première
Yazid,
intervention.
Yazid, je ne vous demande pas si vous avez demandé à le voir. Je vous demande si vous avez vu sur les procès-verbaux, puisque c'est arrivé deux
et
fois,
le
dites-vous, le nom ou le numéro de matricule de ce policier ou de ce contractuel, pour vous assurer de ce que c'est le même ou pas le même à chaque fois.
Non, j'ai pas vu.
Bon,
j'ai pas
c'est très important parce que si c'est le même, je dirais que votre position devient de plus en plus solide. Parce que soit ce policier, je n'ose l'imaginer, a quelque chose contre vous et votre voiture, soit il a un problème de vision. Voilà, il a un problème de compétence ou d'ophtalmo. Bon, alors concrètement, Yazid, quel est le principe de base? Le principe de base, c'est qu'il faut afficher effectivement votre ticket au rodateur et il faut absolument qu'il soit visible. Si votre ticket n'est pas visible de l'extérieur, on ne peut pas en vouloir à un policier de vous verbaliser. Par contre, à partir du moment où il est visible, il n'y a absolument aucune raison qu'il vous dresse un procès verbal, c'est à lui de bien regarder sur le tableau de
bord.
Mais
est-ce que le ticket se fait preuve une fois?
Alors, bien sûr, excellente question. Vous avez un ticket, vous avez été verbalisé, vous allez contester.
Mm-hmm.
Et là, tout peut se passer. c'est le juge qui va décider, j'allais dire, en son âme et conscience. Parce que soit il va dire, effectivement, c'est la preuve que le policier n'a pas bien vu, puisque vous aviez le ticket, il correspondait à l'heure de la verbalisation, vous étiez effectivement en règle à ce moment-là. Soit il va dire, bah oui, madame, vous avez
mais
le ticket,
fallait...
mais qu'est-ce qui me prouve que vous l'aviez bien placé sur le tableau de bord, ou que, et ça je l'ai vu de mes yeux, en fermant la porte, il n'y a pas eu un petit déplacement d'air qui a fait qu'il s'est envolé du tableau de bord et qu'il est tombé au sol devant votre siège. Or, on ne peut pas demander à un policier qui n'a pas accès à l'intérieur de la voiture de se contorsionner pour essayer de deviner où le ticket a bien pu voler. Lui, s'il ne le voit pas du premier coup d'œil, évidemment, il verbalise.
Yazid, vous avez gardé les deux tickets attestant que vous aviez bien payé.
Oui, j'ai gardé. Il y a une deuxième conséquence. Je suis taxi.
Oui.
J'étais à la fin de la journée.
Oui.
J'étais à la fin de la journée. Il me restait 5 minutes pour que l'heure d'attente s'éteint. J'étais à la place d'Enfer-en-Chrope où j'habite à côté.
Yazid, s'il vous plaît. Allez, droite à...
Oui, non, parce que ça m'a vraiment, jusqu'à présent, j'avais pas avalé ça. Je suis passé à l'orange, même pas à l'orange. Il m'a serré à droite, il m'a dit, vous avez grillé le feu rouge. Je lui ai dit, monsieur l'agent, j'ai pas grillé le feu rouge, je suis passé à l'orange. Il m'a dit, je suis un menteur. Franchement, le jour-là, il m'a mentionné...
Mais le orange est un feu... Le orange est un feu rouge. Yazid.
Attention, rétablissons bien les choses, Yazid. Alors, déjà, première chose... Il n'est pas autorisé de passer au feu orange, sauf s'il y a des raisons de sécurité impérative qui l'exigent. Et que si vous passez, si vous freinez plutôt que de passer, ça risque de provoquer un carambolage, un accident.
Vite.
Vous avez un cyclomotoriste qui vous suit de très près derrière, la route est mouillée, etc. Bon, mais la différence, c'est que le feu orange, évidemment, ça n'entraîne pas de suspension de permis de conduire, et ça n'entraîne pas de retrait de points. Et donc, c'est beaucoup moins grave et beaucoup moins lourd comme sanction que le feu rouge. Alors, si un policier dit que le feu que vous avez vu orange, lui, il l'a vu rouge, hélas, on se retrouve placé dans la situation que j'évoquais précédemment sur cette antenne, à savoir que ce qu'il affirme dans son procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. Ça veut dire que, du coup, c'est à vous de démontrer qu'il s'est trompé d'une façon ou d'une autre. Théoriquement, c'est par écrit ou par témoin.
Et en l'occurrence, là, en plus, s'il est taxi et qu'il avait quelqu'un à bord, la personne peut attester.
Va pouvoir témoigner du fait que vous êtes bien passé à l'orange et non pas au rouge. Et dans ce cas-là, il ne faut pas payer le procès-verbal. Il faut le contester en bonne et due forme. N'oubliez pas la lettre recommandée, bien entendu. Et si vos interlocuteurs, comme c'est quasiment toujours le cas, rejettent votre contestation, eh bien, vous leur dites, très bien, maintenant, transmettez au tribunal, puisque c'est mon droit, et je veux qu'un juge arbitre notre différend. Et la personne qui était avec moi dans la voiture, eh ben éventuellement, vous prenez ses coordonnées dès le début, dès que vous êtes verbalisé, pour lui demander si elle veut bien venir témoigner pour vous. Et dans ce cas-là, vous avez toutes les chances de succès.
Maurice est avec nous. Bonjour Maurice.
Bonjour madame.
Mademoiselle, c'est bien aussi.
Mademoiselle, meilleure.
Éric Decomont, pour répondre à votre question. Maurice, c'est extraordinaire ce qui vous est arrivé. Je resitue. Il a neigé beaucoup ces derniers temps.
Bonjour maître Decomont.
Bonjour Maurice.
Donc le 2 janvier, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour amener mon chien à 8h30 dans le 11e arrondissement. J'habite plus tôt. Il faisait nuit, il y avait de la neige sur la chaussée. Je me suis garé devant chez le vétérinaire.
Et vous n'aviez pas vu que c'était livraison puisqu'il y avait de la neige et qu'on voyait pas grand-chose.
C'est ça. Donc en sortant, arrivé à plus tôt, j'ai vu, enfin ma femme m'a dit, tiens, il y a une contravention sur le pare-brise que j'avais même pas vu. Parce qu'il faisait... Je suis allé au commissariat de police de la Défense à Puteaux. Ils m'ont très, très bien reçu. Ils m'ont dit téléphoner dans le 11e arrondissement. J'ai téléphoné dans le 11e arrondissement 3 fois. À la troisième fois, il y a un monsieur qui me dit, donnez-nous le...
Maurice, tâchons de faire court. Vous n'êtes pas tout seul. Oui.
Alors, le monsieur m'a dit, c'est impossible. Ce monsieur est en vacances. Il n'a pas pu vous faire une contravention. J'ai écrit au préfet. J'ai toujours pas de réponse et j'ai peur parce que ça fait déjà plus de 45 jours.
Et vous avez peur de recevoir ensuite majoration.
Majoration.
Éric Decomont.
Alors, Maurice, si vous avez adressé un courrier... En recommandé.
Vous avez la preuve que vous l'avez bien envoyé.
Dans les délais, et donc il n'y a pas de risque de majoration, premièrement. Deuxièmement, vous avez raison de vous défendre, sous réserve qu'il n'y ait pas eu un rappel de l'interdiction de stationner ou de la limitation pour les livraisons par panneau vertical. Parce que s'il y a une signalisation au sol qui est masquée Je pense que vous pouvez juridiquement avoir gain de cause parce qu'une signalisation n'est opposable que lorsqu'elle est visible et vous n'êtes pas censé deviner ce qu'il y a sous la neige. Mmh. Par contre, si jamais il y avait un rappel vertical de cette interdiction et de cette livre, enfin de cette réservation aux livraisons, là par contre, vous n'avez aucun espoir d'obtenir gain de cause. Donc, revérifiez en retournant chez votre vétérinaire préféré. S'il n'y a pas de signalisation verticale, vous êtes dans votre droit, battez-vous jusqu'au bout, vous devriez obtenir gain de cause, y compris si ça doit aller jusqu'au tribunal.
Et encore une fois, vous avez la preuve, vous avez bien fait tout envoyer par recommandé. Donc ne vous inquiétez pas de cette question au sujet de la majoration. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Belle journée à vous, Maurice.
Bonne journée, merci pour votre
émission. À très bientôt.
Au revoir.
Dernière question, celle de Sader. Bonjour, Sader.
Oui, bonjour à vous. Bonjour, maître.
Bonjour, monsieur.
Alors, Sader, vous avez acheté une voiture. La livraison a bien été faite, mais une fois la voiture arrivée, là, vous avez eu quelques petits soucis et depuis, des problèmes avec votre concessionnaire.
Oui, en fait, c'était une voiture d'occasion, pour être bien précis.
Mm-hmm.
Le jour où je suis parti voir la voiture, j'ai demandé au vendeur pour le double des clés. Mm-hmm. Il m'a dit, le jour de la livraison, vous auriez votre double des clés, il n'y a pas de souci. Bon, moi, comme en face de moi, c'est un professionnel, c'est un concessionnaire, j'ai fait confiance. Le jour de la livraison, il n'y avait pas la double des clés. Une fois que je suis parti avec la voiture, j'ai fait une tour, je me suis garé, j'ai fermé la porte avec la commande. En ouvrant la porte, il y avait un souci au niveau de la fermeture centrale. J'ai tout de suite appelé le vendeur. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer. C'était un vendredi vers 17h. Il m'a dit, c'est un vendredi, il est 17h, on ne peut pas faire grand-chose. Vous passez lundi. Et lundi, on va résoudre le problème. Et pour les clés,
Sader, je vous coupe, mais on est très très pris par le temps, donc allons droit au but. Conclusion, la difficulté, c'est que vous n'avez plus moyen de négocier quoi que ce soit avec votre concessionnaire. Il se tait et il fait suer. Quoi faire, Éric de Caumont ?
Très clairement, s'il y a un dysfonctionnement du véhicule, par exemple la fermeture centralisée, le vendeur, et à plus forte raison encore si c'est un professionnel, en est responsable. Donc, s'il ne veut rien savoir, s'il vous traite par le mépris, s'il vous fait tourner en bourrique, eh bien, c'est très simple. Recommandez à R, rappelant ce qui se passe, vos réclamations, vos exigences qui me semblent en l'occurrence parfaitement légitimes. Et là, s'il ne veut rien savoir, vous allez donc lui faire clairement comprendre que ça va se terminer devant une juridiction, en l'occurrence un juge de proximité qui est très facile à saisir, il n'y a pas besoin d'avocat. Et là, vous obtiendrez gain de cause, je pense, devant le juge de proximité, ce qui obligera votre vendeur, incompétent, à assumer les conséquences financières de la remise en état de votre véhicule, tout simplement.
Tout simplement. Merci en tous les cas, Sader, d'avoir posé vos questions. Des questions encore nombreuses ce matin. Preuve qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Hein,
oui, je pense qu'on n'est pas encore au chômage technique.
La police s'est fixé des objectifs. On en a quelques-uns à se fixer aussi pour répondre à toutes ces questions. Allez, quand même, un petit message d'espoir, peut-être dédramatiser la situation. On en parlait hors antenne. À chaque fois qu'on prend une contravention, on a l'impression d'être un délinquant de la route, d'être maltraité. C'est pas grave.
Franchement, il faut faire la part des choses. Nous sommes pas tous des assassins de la route, des monstres, des irresponsables, des mauvais citoyens. Et puis, dans un contexte où, clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a une course au rendement, une course aux chiffres, une course aux amendes, on a de plus en plus l'impression d'être beaucoup plus souvent des victimes que des coupables. Et je peux vous dire, de mon expérience personnelle, c'est quand même majoritairement vrai.